Alors, pour commencer, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. On va lire ensemble les versets 3 jusqu'à 14. Éphésiens 1, 3 à 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dans ce passage, on voit que l'apôtre Paul nous rappelle qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et Paul va tout expliquer quel est le plan que Dieu a mis à exécution pour que nous puissions vivre ces bénédictions spirituelles-là en Jésus-Christ. En lui, on a été élus avant la fondation du monde. On a reçu le pardon des péchés. Maintenant, il nous a donné son esprit pour qu'on puisse vivre pour lui et pour dans le but de célébrer sa gloire. Et lorsqu'on vient dans un cours que j'ai décidé de donner comme titre « Affection spirituelle », plusieurs me demandaient « De quoi on va parler? De quoi on va parler dans ce cours-là? C'est quoi ça veut dire, ça, « Affection spirituelle »? » Je vais vous l'expliquer, c'est sûr. Hein? Mais dans un sens, qu'est-ce qu'on cherche à avoir dans ce cours-là? C'est de développer un amour profond pour Dieu afin de célébrer sa gloire. Le plan parfait que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ. Et comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Quels sont les moyens que Dieu nous donne, met à notre disposition pour qu'on puisse le vivre? Et même si ça fait 1 an, 5 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est chrétien, notre intimité avec Dieu, notre profonde intimité, notre profonde affection pour Dieu et ce qu'il désire pour nous, on a besoin de continuer de le développer. Et puis, c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est que les gens me demandaient, « Ouais, mais moi, ça fait 30 ans de vie chrétienne, j'ai plusieurs années avec le Seigneur. C'est-tu un cours de base? C'est-tu un cours avancé? » C'est un cours pour tout le monde, parce que c'est ce qu'on désire faire, grandir dans notre désir de célébrer la gloire de Dieu. Alors, j'ai pris ce texte-là pour introduire le cours, parce qu'on ne verra pas beaucoup de passages bibliques ce matin, mais gardez à l'esprit que ce cours-là, c'est pour vous aider à grandir dans votre affection pour Dieu, afin de célébrer sa gloire. Le plan parfait qu'il y avait pour nous, c'était qu'on célèbre sa gloire. Alors, je vous invite à prendre la première feuille que je vous ai distribuée, qui est un peu le plan du cours, de qu'est-ce qu'on va faire cette session, juste pour vous expliquer un petit peu le déroulement, comment on va aller en détail dans toutes ces choses-là. Et comme je l'expliquais, ce cours vise à vous équiper afin de vivre au quotidien une relation personnelle avec Dieu afin de grandir dans un amour pour lui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va réussir à vous équiper puis à s'encourager ensemble? C'est par l'étude des fondements bibliques et aussi en regardant certains modèles dans l'histoire de l'Église, des modèles de piété, des modèles de dévotion, de cœur passionné pour Dieu. Apprendre de ces gens-là pour qu'on puisse nous aussi mettre en pratique ce qu'eux ont mis en pratique dans leur vie et qu'on puisse vivre nous-mêmes pour ça. Et on va chercher à comprendre les différents moyens que le Seigneur met à notre disposition pour que nous puissions apprendre à mieux le connaître intimement et le glorifier par nos vies. Donc, vous voyez l'idée là, de dire, je veux regarder les Écritures, approfondir ma relation avec Dieu dans le but de le glorifier. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Et dans un sens, les objectifs un peu plus clairement, c'est d'expliquer les fondements bibliques et théologiques d'une vie en relation avec Dieu. J'ai remarqué là, après impression qu'il y avait des petites erreurs, mais de la vie en relation avec Dieu. Motiver et approfondir davantage notre intimité avec Dieu et notre amour pour lui. Motiver à aimer davantage notre Dieu en aimant son Église et les gens autour de nous. Donc, ça va, notre amour pour Dieu se manifeste aussi dans notre amour pour nos frères et sœurs et pour les gens qui nous entourent. Présenter et expliquer les moyens et les outils que Dieu met à notre disposition pour qu'on puisse grandir dans l'intimité avec lui, puis apprendre à travers la vie d'hommes et de femmes de Dieu comment nous pouvons grandir dans notre amour pour Dieu et notre prochain. Donc, ça, c'est les objectifs. On va traverser ça. C'est toutes des choses que, pour plusieurs, ça va être des rappels, mais désir d'approfondir tout ça pour le vivre plus profondément, le plus possible au quotidien. Donc, les différentes leçons sont énumérées ici. On va commencer avec quelques leçons sur la base biblique de notre intimité avec Dieu, comment l'intimité avec Dieu est rendue possible. Pourquoi je peux vivre cette intimité avec Dieu? Alors, à travers ce que Dieu a accompli pour nous, à travers le fait que notre cœur est changé pour vivre un bonheur en Dieu. On va voir aussi les obstacles, les épreuves parfois, les situations qui nous empêchent de vivre une profonde intimité avec Dieu. Vivre avec Dieu, passionnément pour Dieu au quotidien. Et puis après ça, ça va être dans des éléments un peu plus pratiques à travers la parole de Dieu, les outils que Dieu met à notre disposition, la parole de Dieu, la prière, le jeûne, les temps de solitude, de quiétude avec Dieu. Et puis comment on va aimer Dieu par l'adoration, le service, en s'impliquant dans la mission de Christ, en poursuivant notre croissance à travers la lecture et l'étude. Et puis finalement, on termine avec comment on honore Dieu avec nos ressources et puis persévérer dans les affections spirituelles. Donc ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on va voir. Et puis comme je vous dis, on va à travers toutes ces leçons-là aller puiser dans les Écritures, dans l'histoire de l'Église aussi, des éléments qui peuvent contribuer, nous aider à grandir dans notre affection pour Dieu et dans les affections spirituelles. Et Jonathan Edwards disait les holy affections, c'est les affections saintes qui, dans le fond, qui viennent de l'Esprit de Dieu. C'est quoi? La joie, le zèle, la foi, l'amour. Dans un sens, c'est les affections spirituelles, ce que l'Esprit provoque en nous puis qui se démontre extérieurement. On va voir tout ça en détail. Et on va commencer ce matin avec cette première leçon d'introduction à la spiritualité évangélique. Et ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de commencer en étant très, très, très large sur la notion de spiritualité. On entend ça partout dans notre société. Et puis, les gens cherchent à vivre une spiritualité. Il y en a que non, il y en a que oui, il y en a qui recherchent une certaine direction ou connexion avec un Dieu ou quoi que ce soit. Commencer très large pour définir la spiritualité et refermer un peu l'entonnoir pour expliquer qu'est-ce que la spiritualité selon les évangéliques, comment nous on comprend la spiritualité et comment on devrait vivre notre spiritualité. Alors, on va essayer de définir tout ça. Et puis, on va arriver à la fin avec une définition détaillée, très détaillée, mais qui vous donne un peu un plan de qu'est-ce qu'on va voir pendant la session. Donc, comme je disais, vous pouvez prendre maintenant vos notes. On va commencer à la première leçon. On va introduire le sujet. Comme je disais, notre société, davantage la société occidentale, a été beaucoup influencé par une vision du monde matérialiste. Et je sais que des fois, là, je peux sortir des grands mots. Là, je vais essayer de les définir à mesure pour aider ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que je veux dire par matérialiste. C'est une vision du monde qui découle de la science et qui dit les seules réalités possibles, c'est celles qui sont visibles et observables. Donc, avec la théorie de l'évolution, entre autres, on a cherché à expliquer l'origine de l'univers à partir d'éléments matériels, sans aucune cause. En tout cas, de ce que je comprends, il n'y a pas de cause, sinon qu'à un moment donné, il y a eu un Big Bang, un point tellement minime dans lequel il y a eu une explosion et tout est arrivé. Et donc, il n'y a pas de notion de Dieu dans une vision matérialiste. C'est une vision simplement matérielle. Le monde que je vois, et que je peux voir les réalités, c'est ce monde-là qui existe et il n'y a pas autre chose derrière ça. Et donc ça a été beaucoup influencé, comme je disais, avec la théorie de l'évolution, Charles Darwin, la fin du 19e siècle, mais un petit peu avant aussi, certains philosophes ont commencé avec, à la suite du siècle des Lumières, qui est le 17e siècle, les philosophes ont commencé à remettre en question tout ce qui était surnaturel. Les miracles, est-ce que c'est possible? Et donc, tout ça a découlé à un moment donné, et c'est toujours de fil en aiguille, on en arrive à des théories, à des philosophies qui nous influencent, nous, aujourd'hui. Notre société est très influencée par cette théorie de l'évolution, cette pensée du monde matérialiste. On essaie d'expliquer les sentiments avec les gènes, en observant le corps humain biologiquement. Cette semaine, je ne l'ai pas lu, là, mais j'ai vu un article rapidement, c'est qu'on avait identifié le gène social. Donc, toute l'idée de relation sociale, on cherche à identifier physiquement c'est où l'idée de relation dans l'être humain. Et tout, dans un sens, dans cette pensée matérialiste et scientifique, on cherche à tout expliquer sur le plan physique. Et puis de découvrir qu'est-ce qui permet que, bon, il y a de l'amour, il y a des sentiments, tout ça, tout s'explique, mais sans réalité surnaturelle, mais seulement matérielle. Mais ça, en quelque sorte, plusieurs dans notre société ont été désillusionnés un peu avec cette pensée du monde-là, du fait que tout est matériel, ça s'en va vers où tout ça? Vers la mort, ça termine là, l'univers s'en va vers une destruction. Et comme nous, on comprend que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais comme l'homme est créé à l'image de Dieu, il y a comme une insatisfaction avec cette explication-là du monde et d'une façon de voir les réalités. Et puis, les gens, ils sont comme développé un certain cynisme. On parle d'un certain cynisme par rapport à la vision matérialiste. Et puis, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de se tourner vers d'autres explications pour expliquer la spiritualité. Et donc, dans les dernières années, principalement dans les années 70, 80, 90, on a vu beaucoup les religions orientales influencer le monde occidental, entre autres à travers le Nouvel Âge. On cherche à connecter avec un certain esprit, un Dieu qui est là, présent, qui englobe tout, qui une certaine vision panthéiste de Dieu, où Dieu est immanent, entièrement présent dans tout ce qui existe. Et donc, ce qu'on doit chercher à faire, c'est connecter avec ce Dieu-là, et à travers toutes sortes de façons, les méditations, toutes sortes de façons, on essaie d'entrer en relation avec ce Dieu-là. Et puis, dans un sens, la vision matérialiste n'a pas été satisfaisante, donc on se tourne vers la spiritualité. Mais bon, il y a plusieurs types de spiritualité, plusieurs religions dans le monde. Et pour juste définir en quelque sorte qu'est-ce que c'est la spiritualité, j'ai donné ici une définition qui vient d'un livre que j'ai utilisé qui s'appelle Christian Spirituality, une introduction là d'un auteur anglais. Alors j'ai ici cette définition de la spiritualité. Les gens vont chercher quelque chose à travers ça. Et la spiritualité, c'est le dernier paragraphe de l'introduction, là, concerne cette quête d'une vie religieuse, authentique et comblée, rassemblant les idées distinctives de cette religion et l'entière expérience de vivre sur la base et dans le cadre de cette religion. Donc, les religions, ou les philosophies, si on peut dire, ils ont toute une vision du monde. Et qu'est-ce qu'on va chercher à faire à travers la spiritualité? C'est une quête de vivre cette religion-là, de mettre en pratique les enseignements et de vivre une vie authentique et comblée à travers ça. Le monde matériel, juste comme ça ne me comble pas. Je vais chercher à combler, on va le dire comme à la manière d'Augustin, un certain vide intérieur à travers la spiritualité. Et puis, les gens vont rassembler des idées d'une religion et chercher à vivre sur la base et dans le cadre de cette religion-là. Donc, c'est large, mais on commence à spécifier qu'est-ce que c'est la spiritualité. Maintenant, on va aller plus dans la spiritualité chrétienne. Et certaines caractéristiques de la spiritualité chrétienne, premièrement, c'est un ensemble de croyances. Qu'est-ce qu'on observe? Puis, dans un sens, on l'observe dans la spiritualité en général, mais là, on va préciser un peu plus en quoi ça concerne la spiritualité chrétienne, il y a un ensemble de croyances. Fait qu'il y a, dans un sens, il y a, à la base de ma spiritualité, j'ai une foi. Il y a une certaine foi qui s'installe, et cette foi est dans des enseignements ou dans des philosophies qui sont données. Mais pour les croyants, c'est basé dans l'enseignement de Jésus-Christ, dans le christianisme. Donc, même s'il y a des définitions différentes, parfois des compréhensions différentes de certaines doctrines, dans le monde chrétien, c'est très large. J'englobe tout ce qui est catholique, évangélique, protestant, j'englobe tout ça. Ça a quand même ses racines dans l'œuvre de Jésus-Christ. Mais il y a différentes versions du christianisme. Et malgré ces différentes versions-là, il y a plusieurs croyances qui se ressemblent et qui sont communes. Par exemple, l'Église catholique adhère au Concile de Nicée, au Credo de Nicée, qui croit, entre autres, à la divinité de Jésus-Christ. Et puis, plus tard, le Credo qui a découlé du Concile de Constantinople avec l'Esprit de Dieu faisant partie de la Trinité et la divinité Dieu étant un, mais manifesté en trois personnes. L'Église catholique croit ça. Et donc, on partage les mêmes croyances. Ils vont croire au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, mais dans son application peut-être un peu différent de nous, mais il croit quand même à ça, il croit à la personne, sa divinité, son œuvre, sa résurrection. On se retrouve avec des catholiques sur certaines croyances. Et donc, sur le plan chrétien plus large, même s'il y a des différences dans l'application ou dans les doctrines plus précises, il y a quand même un credo qui se rassemble. Et donc, la spiritualité chrétienne, dans son ensemble, s'identifie avec un ensemble de croyances qui est basé sur, bien souvent, la plupart du temps sur les Écritures et sur la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Ça manifeste aussi un ensemble de valeurs. Le christianisme est grandement considéré comme une foi éthique. Donc, j'ai une foi dans ce que Jésus-Christ a accompli, mais il y a des instructions qui sont venues aussi par Jésus-Christ sur comment je dois vivre. Et c'est ça l'éthique. L'éthique, c'est comment je vais vivre au quotidien, comment je vais accomplir les choses, qu'est-ce que je dois faire. Et donc, la foi chrétienne, c'est une foi éthique. Vous pouvez m'énumérer des valeurs chrétiennes. Tu sais, je vais vous faire participer un petit peu, là. Les valeurs chrétiennes. Okay? Quelles sont les valeurs qui font partie de cet ensemble de valeurs chrétiennes qui identifient le christianisme? Oui, vas-y, Samuel. Aimer nos ennemis, OK? Oui, c'est ça. La famille, OK? Oui, les valeurs qui sont importantes, l'importance de la famille. Aussi, l'amour en général, mais aussi plus précisément, aimer nos ennemis. Pas juste aimer ceux qui me font du bien, mais aimer ceux qui me font du mal aussi. Donc ça fait partie de l'éthique chrétienne. D'autres? Oui, Serge? La paix, oui, de vivre en paix avec tous, dans un sens, c'est dans ce sens-là que tu veux dire, oui, de vivre en paix dans nos relations, oui, Edner, la patience, oui, le pardon, oui, c'est ça, il y en a plusieurs, là, OK. Oui, 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 OK. Oui, c'est ça. Une valeur associée à la vie humaine, dans un sens que Dieu est au contrôle, puis nous, on n'a pas à jouer là-dedans. Dieu est au contrôle de ça. Donc, une appréciation juste de la vie humaine, si je peux dire, selon Dieu. Oui, Esther. Ah. Oui, OK. Donc, d'être soumis aux autorités. Ça, c'est si on peut l'englober dans ça, d'être soumis aux autorités en payant nos taxes, nos impôts, en étant fidèle et en étant honnête dans ça. OK? Monsieur Latour, vous avez? Oui. OK? Chercher la justice. Oui. La justice dans notre monde. Oui. OK, beaucoup, hein? Là, OK, une dernière, Madame Clark, allez-y. Oui. Mm-hmm. Oui. Oui. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, vous soulevez un point de doctrine là, ici, là, entre la différence entre les catholiques et les protestants au niveau de l'Eucharistie. Le repas, nous, on appelle ça le repas du Seigneur, mais eux voient l'hostie comme une Jésus descendant, la transsubstitution, là, en tout cas. Mais, et puis, la personne reçoit le corps, reçoit Jésus-Christ à travers l'hostie lorsqu'il est dans la célébration de la messe puis de l'Eucharistie. Donc, ça, c'est plus au plan de la doctrine. Mais on a nommé plusieurs choses. Oui, Madame Roy, là, OK, je vous ai vu, là. Aider son prochain, oui, c'est ça, d'aimer, mais de le manifester en action. Pas juste par des paroles, « Ah, oh, je t'aime. » Non, mais si tu m'aimes, montre-moi-le. Hein? Donc ça, c'est tous des valeurs chrétiennes. Une foi qui est éthique, qui se manifeste dans des actions, dans des attitudes qui sont spirituelles et qui viennent de Dieu, dans un sens. Alors, on voit effectivement Jésus-Christ comme notre modèle parfait, celui sur lequel notre vie spirituelle est fondée. Et finalement, une fois qu'on est fondé dans cette vie spirituelle en Jésus-Christ, on veut suivre son modèle d'amour, son modèle de serviteur et vivre comme il nous a enseigné. Et donc, ça nous amène avec la troisième caractéristique de la foi chrétienne ou de la spiritualité chrétienne, c'est une manière de vivre. Être un chrétien, ce n'est pas seulement le fait d'être lié à des croyances et des valeurs. Ce n'est pas juste de dire, ben moi je crois à ça, Jésus est Dieu, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, Jésus est ressuscité. Les valeurs d'amour du christianisme, oh, c'est merveilleux ça, j'aime ça. Non, ça doit se manifester dans une vie pratique au quotidien. Et donc, la vie chrétienne, c'est une manière de vivre. La spiritualité chrétienne, c'est une manière de vivre. Puis c'est dans la vie réelle que les croyances puis les valeurs vont s'exprimer puis vont s'incarner dans une manière de vivre qui est définitive. La vie de tous les jours des croyants est grandement affectée de plusieurs façons par leur foi. Effectivement, on croit que notre foi doit se manifester de jour en jour au quotidien. Et donc, ça se manifeste entre autres collectivement en allant à l'Église. Ça, c'est une manière de vivre. On va à l'Église pour recevoir un enseignement. Pour les catholiques, c'est pour recevoir le Christ à travers l'Eucharistie. Pour nous, c'est de se rappeler de ce que Christ a fait pour nous, puis de vivre une communion avec lui à travers sa parole, à travers l'Esprit qui est en nous, puis l'adoration. On voit que les chrétiens se rassemblent pour prier aussi, pour adorer Dieu. Donc, c'est une manière de vivre. Donc, trois éléments importants, c'est l'élément de croyance. Notre foi est fondée sur des choses qu'on croit. Ensuite de ça, sur des valeurs qui nous sont enseignées dans les Écritures et dans la personne de Jésus-Christ, et finalement, une manière de vivre. Donc ça, c'est en général, généralement, la spiritualité chrétienne. Donc, si on définit, on a donné une définition plus large de la spiritualité. Maintenant, la spiritualité chrétienne, si on pouvait la définir, c'est la façon selon laquelle les chrétiens et les groupes de chrétiens cherchent à approfondir leur expérience de Dieu. C'est une proposition, là. Je ne dis pas que c'est ça, mais c'est très large. Puis, je pense que ça englobe beaucoup de choses. Okay? Donc, expérience de Dieu, ça veut dire vivre une relation avec Dieu. Et de cette relation-là va découler des choses. Mais on va détailler ça un petit peu plus loin. Mais si on reprend plus précisément la définition générale qu'on a mentionnée tantôt, je la donne ici, c'est qu'on remplace, dans le fond, la religion par spiritualité chrétienne. La spiritualité chrétienne concerne cette quête d'une vie chrétienne authentique et comblée, rassemblant les idées distinctives du christianisme et l'entière expérience de vivre sur la base et dans le cadre de la foi chrétienne. Donc, ce n'est pas juste une religion, c'est une foi qui est chrétienne. Et nous, on comprend que c'est la foi dans la personne de Jésus-Christ et dans ce que Dieu accomplit à travers lui et ce qui est révélé dans les Écritures. Donc, plusieurs ont essayé de définir la spiritualité chrétienne. Là, on a un exemple. Je lisais un livre là, qui avait peut-être 10-12, il énumérait 10-12 définitions. Mais ce qu'on remarque dans ces différentes définitions de la spiritualité chrétienne données par les auteurs reconnus, c'est les éléments suivants. Un désir de connaître Dieu et ne pas seulement connaître à propos de Dieu. Donc, il y a quelque chose de personnel. Ce n'est pas juste une connaissance intelligente dans mon cerveau. C'est des connaissances qui vont me pousser à vivre une relation personnelle avec Dieu, à le connaître personnellement. Et je pense que c'est G.I. Piker, dans son livre « Connaître Dieu » au début, il donne ces deux exemples-là. On peut lire ce livre-là et chercher à connaître Dieu en étant un spectateur de comment ça se passe dans la vie de certaines personnes. Ou on peut devenir participant de connaître Dieu et de vivre en relation avec lui. Donc, plusieurs, il y en a qui connaissent des choses sur Dieu, mais ne connaissent pas Dieu personnellement. Nous, ce qu'on cherche, c'est connaître Dieu intimement. Pas juste comprendre comment ça se passe la vie chrétienne. On veut la vivre réellement en relation avec Dieu. Et donc, ça veut dire aussi expérimenter Dieu pleinement. Ça, c'était juste comme une remarque. Dans un sens, Dieu fait partie de ma vie. Je veux vivre en relation avec lui. Je veux le voir agir dans ma vie. Je veux que, des fois, on chante « Manifeste ta puissance ». Je veux qu'il manifeste sa puissance dans ma vie. Je veux qu'il me transforme. Je veux pas rester comme avec mon péché. Je veux être transformé. Je veux vivre la présence de Dieu dans ma vie, puis laisser l'Esprit de Dieu, laisser Christ vivre en moi pour que ça paraisse dans mes actions. Donc, expérimenter Dieu pleinement, vivre une existence transformée. Donc, c'est plus comme avant. En devenant un chrétien, je veux vivre une nouvelle vie. Je veux qu'il y ait des choses qui changent dans ma vie. Et donc, ça fait partie de la spiritualité chrétienne. Et finalement, atteindre une authenticité chrétienne dans ma vie et dans mes pensées. Donc, pas juste une question de croyance, mais de le vivre réellement, que je sois identifié et qu'on voit en moi que si je dis que j'aime Christ, ça paraît dans mes actions. Je veux que ce soit authentique. Donc, ça, c'est dans tout ce qu'on observe, là, dans les définitions qui sont données, c'est les caractéristiques qui reviennent, OK, de la spiritualité chrétienne. Et ça, c'est encore un peu large. Maintenant, on va préciser un petit peu plus, parce que ça fait partie de la spiritualité catholique aussi, si je peux dire, dans un sens. Ou la spiritualité grec-orthodoxe, ou de la spiritualité des protestants qui ont suivi, par exemple, l'Église unie ou l'Église anglicane. Dans un sens, ça englobe tous les chrétiens, ces caractéristiques-là. Maintenant, le mouvement évangélique, la spiritualité évangélique, là, on se concentre un peu plus sur nous. Comment ça s'est développé? Comment on définit, nous, la spiritualité? Ça devient plus précis un peu. Okay? C'est différent. On ne vit pas notre spiritualité de la même façon que les catholiques ou que les grecs orthodoxes qui utilisent des images dans leur adoration ou des choses comme ça. Il y a des précisions, des choses qui caractérisent la spiritualité évangélique et c'est ce qu'on va voir ensemble en faisant, premièrement, un survol du mouvement évangélique. Pourquoi je fais un survol de l'histoire de... Parce que ce que nous, on croit ici, à l'Église de l'Espoir évangélique baptiste, ça a ses racines à quelque part dans l'histoire. Okay? Il y a eu des événements dans l'histoire de l'Église qui ont fait que cette Église ici a été fondée, établie avec les croyances, un credo, des enseignements qui sont basés sur les Écritures. Et justement, le fait d'avoir les Écritures comme au centre de nos enseignements fait partie de la spiritualité évangélique, on va le voir. Mais il y a eu des changements et ça a évolué à travers le temps. Et puis, on parle du monde évangélique. Le mot évangélique n'existait probablement pas au 16e siècle, au moment de la Réforme. Ça s'est développé et on parle d'un mouvement évangélique. Et c'est ce que je veux voir, juste faire le tour de rapidement, comment ça s'est défini un peu plus. Donc, lorsqu'on regarde le mouvement évangélique, aujourd'hui, c'est très large. Encore une fois, c'est assez large. Et puis, ça va se préciser des fois dans les croyances. Par exemple, les pentecôtistes sont des évangéliques, considérés comme des évangéliques. Puis nous, on est des baptistes, on est des évangéliques aussi. La spiritualité se vit sensiblement pareil, mais il y a des petites différences encore. Et donc, mais qu'est-ce qui caractérise plus précisément, dans le fond, le mouvement évangélique, on va le voir ici. Fait que dans le fond, l'histoire commence commence avec Jésus. Tout le monde va dire, ah, oh, mais les baptistes, eux autres, là, ça commence avec Jésus puis les apôtres. Puis là, il y en a qui aiment ça, de dire, nous autres, là, nos racines sont là. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a eu un retour aux sources à un certain moment donné, mais le mouvement lui-même n'a pas commencé dès au moment où Jésus, le christianisme a commencé. Puis après ça, il y a eu des différentes branches qui se sont développées. Et la branche évangélique, c'en est une de celles-là, qui a commencé à partir des grands réveils qui ont eu lieu en Grande-Bretagne puis aux États-Unis au cours du 18e siècle. Mais ces grands réveils-là étaient quand même enracinés dans le protestantisme issu de la Réforme du 16e siècle. Puis on va commencer notre survol avec ça, parce que je pense que, bon, on pourrait faire toute l'histoire de l'Église, puis arrivé au 16e siècle, mais je pense que ce qui a démarré, justement, un point de départ qu'on peut identifier, c'est vraiment la réforme protestante. Lorsque je parle de la réforme protestante, on parle des événements qui sont passés dans les années 1500, au 16e siècle, avec des leaders et des influenceurs qui ont été reconnus comme étant Martin Luther et Jean Calvin. Et puis ça a commencé avec, entre autres, Martin Luther, qui était un augustinien, dans un sens qui était dans une école qui suivait les enseignements d'Augustin, et qui, à travers cette école-là, a commencé à étudier l'Épître aux Romains en grec. Et a commencé à découvrir, à travers l'Épître aux Romains, la justification par la foi seule. OK? Sola fide. OK? Lorsqu'on parle des sola de la Réforme, il y en a cinq. Je ne les nommerai pas parce que je risque de me tromper, mais la foi, la justification par la foi seule était un élément qui a marqué Luther dans son étude de l'Épître aux Romains. Il s'est rendu compte que ça ne marche pas avec l'Église catholique, cet enseignement-là. Parce que l'Église catholique a dit que, le pape, il dit que si je donne de l'argent, puis que si je donne des indulgences, dans le sens c'était les indulgences, je cherchais le mot, si je contribue, puis le pape disait, quand l'argent sonne au fond de la canne, là, si je peux dire, il y a une âme qui sort du purgatoire. Et donc, comment les gens étaient sauvés, OK? C'était, bien, là, il n'y a plus juste le ciel et l'enfer, il y a un purgatoire. Puis pour financer la basilique Saint-Pierre, la construction de la basilique Saint-Pierre, le pape a décidé, les gens vont contribuer en donnant de l'argent. Puis en donnant de l'argent, les âmes vont sortir du purgatoire pour aller au ciel. Et il y en a qui ont connu ça ici, là, les indulgences. Là. Moi, je n'ai pas connu ça, grandi dans le monde évangélique, mais c'était ça. Et puis là, Martin Luther, ça ne marche pas cette histoire-là. La justification, c'est par la foi seule. Il n'y a pas cette idée-là d'indulgence ou d'œuvre à faire pour être sauvé. C'est sur la base de ce que Christ a accompli. Et donc, il a cherché premièrement à réformer l'Église de l'intérieur. Il n'a pas cherché à créer une division, il a cherché à réformer l'Église de l'intérieur pour revenir à la base, revenir à une compréhension juste des Écritures. Et qu'est-ce que ça l'a provoqué? Ça l'a provoqué qu'il n'a pas été aimé ben. Hein? Ça n'a pas passé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a été mis devant des jurys de l'Église catholique et des juges qui ont décidé finalement qu'il allait être excommunié. Et son excommunication a fait en sorte qu'une étant un leader influent quand même à travers ses enseignements, une partie l'ont suivi. Et là, le mouvement protestant a commencé, la réforme a commencé, et puis avec l'Église luthérienne, entre autres en Allemagne. Et puis, on avait aussi Jean Calvin en France qui a écrit sur cette idée de la justification par la foi seule. Et dans le fond, c'est ce retour à l'adhérence des Écritures comme la seule autorité qui était contraire à la vision de l'Église catholique, qui voyait la Bible, la tradition, le pape, comme ayant autorité égale. Mais ça ne marchait pas. Et puis, dans un sens, selon les Écritures, et puis Martin Luther a voulu ramener l'Église à voir les Écritures. Ça, c'est un autre sola, les Écritures seules, sola scriptura, un autre sola de la Réforme, qui ce sont les Écritures seules qui ont autorité. Et donc, lorsque le pape dit quelque chose de contraire à ce que dit la Bible, ça ne marche pas. Ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Ce qui tient, c'est la vérité de la Bible et des Écritures révélées par Dieu. Et donc, ça l'a, justement, comme je dirais, provoqué, comme je disais, l'excommunication de Luther. Et puis, il y a eu une division. Et puis, le mouvement protestant, la réforme a commencé. Ça, c'est rapidement la réforme en 5 minutes. Oui, monsieur Maltais. Oui. Oui, c'est-tu excommunication, je ne sais pas. Excommunion, hein? Je peux peut-être tromper de terme, oui. OK, excusez-moi. Excommunion, oui. C'est vrai. C'est bon. L'excommunion de Luther. Fait que vous pouvez corriger ça, là, désolé. Ça a fini tard hier soir, là, à 11h30. Même là, j'aurais probablement fait l'erreur. Non, c'est ça. Oui. Donc, c'est la communion avec l'Église. Il a été excommunié de la communion avec l'Église. Oui, le vicaire, là, c'est ça, le représentant de Dieu. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec toute l'idée de la prêtrise, tous les chrétiens sont des prêtres qui ont directement accès à Jésus-Christ, accès à Dieu par Jésus-Christ. Donc, ils n'ont pas besoin de passer par un prêtre pour la confession ou avoir accès à Dieu. C'est tous les croyants ont cette prêtrise, sont des prêtres. Et donc, ça se poursuit au 17e siècle. Et le 17e siècle est marqué, surtout en Angleterre, en Grande-Bretagne, avec le mouvement piétiste et les puritains. Et puis ça, c'est... Je n'irai pas très en détail parce qu'il s'en est passé des affaires là-dedans. Il y a beaucoup de noms à mentionner, beaucoup qui ont écrit. Mais ce qui caractérisait le piétisme, c'était que, dans un sens, à l'intérieur de l'Église luthérienne, il y avait un certain Philippe Jacob Spener en Allemagne et qui a cherché à revenir à une dévotion entière puis une vie centrée sur Dieu. Et dans un sens, il y avait une recherche de réveil. Il y avait ce qui caractérise, juste une parenthèse, ce qui caractérise souvent l'histoire de l'Église, c'est qu'il va y avoir des mouvements de réveil, des moments de réveil. Et la réforme protestante en est un moment de réveil. Et puis là, il se passe un réveil, on partage ça, là, l'Église est réformée, les cœurs sont changés, l'Esprit de Dieu agit. Et puis, lorsqu'on arrive à la génération d'ensuite, ce réveil-là n'est pas nécessairement transmis ou... parfois, il y en a. Moi, je suis un chrétien de deuxième génération. Je crois que je suis sauvé, que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Mais dans ceux que j'ai connus quand j'étais tout petit à l'école du dimanche, là, 1 sur 10, 1 sur 8 peut-être, qui est chrétien aujourd'hui puis qui marche avec le Seigneur, très peu. Donc, il y a comme il appelle ça le gap de génération. C'est comme un fossé entre la génération qui suit. Donc, il y a un réveil qui se passe et puis là, ça ne se transmet pas, ou les enfants ont grandi dans cette mentalité-là, mais sans que ça touche le cœur nécessairement. Et puis, il va y avoir ce mouvement-là de réveil, comme dans les livres des juges, hein? Réveil, on se détourne de Dieu, un autre réveil, ça se détourne de Dieu dans l'autre génération. On voit ça aussi dans l'histoire de l'Église, ça caractérise les juges, l'époque des juges, comme on peut le lire dans l'Ancien Testament, mais ça caractérise aussi l'histoire de l'Église. Donc, après la réforme protestante, l'Église continue, ça devient une religion, encore une fois. Et puis, Spener, ce qu'il désire, c'est de voir un réveil dans la dévotion puis la pratique de la foi chrétienne. Donc, ça va influencer l'Église luthérienne, puis il va y avoir un réveil au sein de l'Église luthérienne, et ça va provoquer le mouvement piétiste en Allemagne, en Angleterre aussi. Et puis, il y avait aussi en Angleterre, l'Église d'Angleterre, parce que, juste pour expliquer, dans l'Église d'Angleterre, souvent, vous connaissez, là, le catholicisme, c'est géré par région, avec des évêques, des archevêques. Et puis, l'Église d'Angleterre, elle, avait adhéré aux deux positions, protestante et catholique. Et dans les églises, parmi les protestants anglais, faisait partie de l'Église anglaise catholique, mais c'était des protestants à l'intérieur. Ils ont voulu réformer, continuer de réformer pour que l'Église d'Angleterre devienne une vraie Église protestante. Ça ne marche plus, là, le catholicisme, on a besoin de revenir. Et puis, il y avait ces dirigeants-là avaient des convictions calvinistes, puis ils ont cherché à purifier l'Église, encore une fois, réformer l'Église de l'intérieur pour qu'elle revienne aux sources. Et puis, ces gens-là, on les appelait les puritains. Et puis, il y avait une influence politique aussi à travers tout ça. Et puis, les puritains, c'était des gens qui étaient des calvinistes, qui cherchaient l'assurance du salut. Et là, ils ont erré un petit peu. Ils déclaraient pas que l'assurance du salut pouvait être possible. Mais c'est quelque chose qu'on devait rechercher constamment dans mon cœur, dans ma relation avec Dieu, dans mes actions. Là, je peux avoir l'assurance du salut parce que je vois que je montre les fruits de l'esprit. C'est pas mauvais, mais en même temps, il y avait un accent trop mis sur faire les choses, puis m'assurer que je suis là, puis je suis dans la bonne voie, puis je suis en train d'être sanctifié. On oubliait un peu l'œuvre de l'esprit, puis la foi dans ce que Christ a accompli. Et donc, ça penchait un petit peu d'un côté, mais ça l'a influencé quand même, cette recherche de la sainteté, cette recherche de marcher avec Dieu, de marcher dans la foi chrétienne selon les Écritures. Et du mouvement piétiste et puritain, ça a été un facteur qui a provoqué les grands réveils qu'on a connus au 18e siècle. En Grande-Bretagne, le premier grand réveil est aux États-Unis. Et là, on a les noms de John et Charles Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, qui ont été, entre autres, influencés par le mouvement piétiste et puis par les puritains. Et puis, John et Charles Wesley et George Whitefield étaient en Grande-Bretagne. Il y a eu, par leur prédication, des réveils qui se sont produits. Et puis, sont venus aussi, c'était le moment de la colonisation de la Nouvelle-Angleterre, et puis ils sont venus. Et puis, Jonathan Edwards était un pasteur dans le New Hampshire, avec d'une église congrégationaliste. Et lui a prêché dans les églises. Mais John Wesley et George Whitefield, eux, ont commencé ces rassemblements en plein air où ils prêchaient l'Évangile. Et là, vous voyez déjà commencer à voir venir les croisades d'évangélisation qu'on a connues au 20e siècle, entre autres. Et puis, donc, eux autres prêchaient l'Évangile en plein air. Je pense que Whitefield a prêché 40 000 sermons dans sa vie avec des gens, des foules. Ça a l'air qu'il y avait une voix. Je pense qu'il y en a un des deux, je ne me souviens plus lequel, mais il y en a un qui est mort d'un cancer de la gorge tellement ça l'a affecté, sa voix a affecté. Mais quand même, à travers ça, il y a eu des réveils spirituels. Il y avait les racines anglaises étaient dans l'Église d'Angleterre qui était protestante, mais à l'intérieur même de cette Église-là, il y avait des réveils qui se produisaient. Et on voit ça même si nous, on est une église évangélique, baptiste, qui croit aux Écritures, on cherche la nouvelle naissance, etc. Des fois, on a besoin nous-mêmes de réveils spirituels dans nos vies. Il y a des gens au milieu de nous qui sont, endormis spirituellement, puis ils ne vivent pas leur foi pleinement, puis ça s'est produit à l'intérieur des églises. Et puis, c'est là que le mouvement vraiment évangélique a commencé, avec la proclamation de l'Évangile. Ça s'est poursuivi avec un deuxième réveil. Encore une fois, le gap de génération, début du 18e siècle, un gap de génération, fossé de génération, et puis ensuite un deuxième réveil vers la fin du 18e, début du 19e. Et puis ça, c'est aux États-Unis, entre autres en Amérique, lorsque les prédicateurs baptistes et méthodistes organisent des rencontres dans des camps. Donc, il y a des rassemblements dans des camps, des prédications pour prêcher l'Évangile, puis que les gens se réveillent spirituellement de leur mort spirituelle et de leur... s'ils étaient endormis spirituellement, le désir était de provoquer des réveils. Et à la fin du 19e siècle, ça continue avec Charles Finley et D.L. Moody, des proclamations de l'Évangile public pour voir des réveils arriver. Et donc, ça se poursuit. 20e siècle arrive. Et puis, le 20e siècle va être influencé par les mouvements charismatiques au début du siècle. Pentecôtistes qui mettent l'accent sur revivre la Pentecôte avec une plénitude, de recevoir le Saint-Esprit, de voir les dons de prophétie, de parler en langue, de guérison se reproduire. Je ne m'étendrai pas là-dessus. J'ai besoin d'étudier davantage là-dessus pour voir exactement qu'est-ce qui est de Dieu exactement dans tout ça. Je pense que Dieu utilise ça, mais dans un certain sens, mais vu que ça ne fait pas partie de nos convictions profondes ici, ben, j'aime mieux, comme je vais dire, je vais réfléchir un peu plus là-dessus et étudier cette question-là. Mais il y a eu ce mouvement-là, Pentecôte, qui a influencé le monde évangélique. Mais quand même, à travers ce siècle-là, Les efforts d'évangélisation puis de réveil vont se poursuivre. Billy Graham est reconnu pour ça. Vous connaissez Billy Graham. Là, on s'approche de nous. Là. L'évangélisation de masse. On invite les gens à un endroit pour qu'ils entendent l'Évangile. Il y a un appel qui est fait pour qu'ils acceptent l'Évangile. Ils avancent en avant. Et puis, mais toujours, ayez toujours cette idée de voir le réveil arriver dans les églises. De voir le réveil et Dieu transformer les cœurs pour que les cœurs se tournent vers Dieu. Et ça s'est continué jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'on dit qu'on est des évangéliques, bien, ça a des caractéristiques distinctive, et depuis le début du mouvement évangélique, on peut identifier quatre caractéristiques de la spiritualité évangélique. Donc, ça part des réveils, ça part jusqu'à aujourd'hui, c'est des caractéristiques qui demeurent dans la foi évangélique. Oui? Oui? Ben, il y a les catholiques, oui. Le mouvement charismatique a influencé le monde évangélique, mais aussi catholique. Et donc, c'est ça. Puis même aujourd'hui, là, on voit les effets de ça même dans les églises. On entend aux États-Unis les églises baptcôtistes, donc baptistes et pentecôtistes. Baptcôtistes, c'est bizarre, là, mais c'est toute cette idée-là. Puis il y a eu plusieurs vagues de mouvements. Lorsqu'on parle de charismatique, ça veut dire les... charisme, ça vient du grec charisma, qui parle des dons de l'esprit, qui viennent de l'esprit, donc les effets de l'esprit dans la vie. Fait que les mouvements ont influencé. Ça a ses racines, avec les Quakers en Angleterre, tout ça, là, ça remonte à loin, mais ça l'a influencé jusqu'à ici aujourd'hui. Hein. Oui. Chris Lam. OK. Oui. Fait que le... OK. Oui, OK. Je n'ai pas entendu de celle-là. Chrislam, c'est comme l'islam avec Jésus-Christ là-dedans. C'est ça. Il y a du syncrétisme, hein, ce qu'on appelle l'union de philosophie, de religion qui crée des nouveaux mouvements. Mais on va s'en tenir à la spiritualité évangélique. Et avec le temps qui reste, les quatre caractéristiques. Et puis, on va arriver à notre définition puis comment on peut tirer des leçons de ça pour nous. Quatre caractéristiques, la Bible occupe une place importante. Je pense que là, vous allez vous commencer à reconnaître un peu notre identité. La Bible occupe une place importante. On veut voir les Écritures enseignées, prêchées dans l'Église, parce que c'est la parole de Dieu, puis c'est la nourriture. Puis tantôt, je vais prêcher là-dessus. Et puis, dans un sens, c'est la nourriture spirituelle, c'est la seule autorité, et on étudie les Écritures. Ça se fait dans l'Église, mais ça se fait aussi individuellement. On va voir que les chrétiens évangéliques, c'est des gens qui étudient la parole de Dieu pour eux-mêmes, personnellement. L'Église va organiser des études bibliques aussi pour approfondir la compréhension des Écritures. Et donc, la Bible, les Écritures occupent une place importante. Un accent particulier sur la croix de Jésus-Christ. Encore une fois, hein, on se reconnaît. La croix de Jésus-Christ est au centre de notre salut. C'est ce qui nous donne accès à une relation intime avec Dieu par la réconciliation, puis par le châtiment que Christ a subi pour nous à la croix. C'est ça qui nous donne accès à la présence de Dieu. Dans Hébreux, l'auteur va dire qu'à cause de Christ, on a maintenant un libre accès auprès de Dieu. Si Christ, la croix de Christ n'était pas là, on n'aurait pas ce libre accès-là. On ne vivrait pas la spiritualité évangélique si la croix de Christ n'était pas là. Et la croix de Christ est au centre à cause de sa mort salvatrice sur la croix et la foi qu'on place en lui. Et donc, ça va au point 3, la nécessité d'une conversion individuelle. Et donc, ça, c'est l'idée de pas seulement accepter le message chrétien, ou de se dire chrétien, mais c'est de dire, je suis d'accord avec ça et je place ma foi dans ce message-là. Et donc, le message évangélique, c'est le message de la croix. Et puis, dans un sens, ça nécessite une conversion individuelle, puis la foi est démontrée par une transformation individuelle qui est la nouvelle naissance. Dans Jean 3, on parle de nouvelle naissance, et donc, ce qui caractérise les évangéliques, c'est qu'on va parler aux États-Unis beaucoup de « born again », hein? C'est même, des fois, dans une génération qui vit après, c'est comme « moi, je suis born again, je suis correct ». Non, c'est pas ça. T'es-tu un bon... Oui, je suis born again. Moi, j'ai dit ma prière de repentance à l'école du dimanche quand j'étais tout jeune. Hein? Puis ça caractérise même nos enfants, les vôtres. Je suis born again, je suis correct. J'ai pas besoin. Puis là, aux États-Unis, on voit que les gens vont pas à l'église, ils font pas partie du corps de Christ. Leur vie manifeste pas la présence de la nouvelle naissance, la présence de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Donc c'est une conversion. C'est réellement une nouvelle naissance. Et finalement, les églises évangéliques puis les individus sont engagés dans l'évangélisation. Et puisque Christ est le seul sauveur dans lequel on doit placer notre foi en lui, ben on a besoin, les gens ont besoin d'entendre ce message-là pour rentrer en relation avec Dieu. Et donc, on est des gens qui vont proclamer l'Évangile, qui vont, dans nos vies individuelles et en Église, chercher à propager ce message de l'Évangile pour que les gens viennent à Christ. Et puis, on va voir dans le mouvement évangélique beaucoup l'utilisation, comme je disais au 20e siècle, l'utilisation des médias pour propager l'Évangile. Je parlais de Billy Graham, mais Billy Graham n'était pas juste dans des gros stades aux États-Unis. Il était à la télévision. Il y avait des télé-évangélistes dans les années 80-90. Même encore aujourd'hui, il y a des églises qui vont utiliser les ondes, si je peux dire, et maintenant avec les réseaux sociaux, l'Internet. On veut propager le message de l'Évangile. Okay? On utilise tous les moyens possibles pour hein? Oui, c'est ça. Oui, OK, avec la télé. Ouais, ils ont entendu le message de l'Évangile à la télé. Une amie disait, Camille, a entendu le message de l'Évangile à la télé puis s'est converti. J'avais entendu un même message, un témoignage semblable, si je peux dire, avec un... j'étais dans une conférence aux États-Unis. Le gars vivait un moment difficile, puis il avait entendu parler d'un certain John Piper, puis il est allé sur Internet écouter un de ses messages. S'est converti au Seigneur. Puis il donnait son témoignage à cette conférence-là. Dieu utilise toutes sortes de moyens, mais on voit cet effort-là des évangéliques pour que le message se rende et pour que les gens puissent croire. Donc, finalement, si on peut résumer, ou je peux dire détailler un peu plus, là, vous allez voir une grosse définition que j'ai détaillée. Parce que je veux vous donner une espèce de survol. Qu'est-ce qu'on va voir tout pendant la session? De qu'est-ce que c'est la spiritualité biblique? Vous avez vu, j'ai changé le terme, j'ai dit biblique pour être plus... pour caractériser justement notre idée d'avoir la Bible au centre comme autorité. C'est une relation intime et profonde avec Dieu, qui a pour commencement la nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu. C'est manifesté par une repentance envers Dieu, la foi dans la personne de Jésus-Christ et son œuvre salvatrice accomplie dans sa mort et sa résurrection. Cette relation intime et profonde avec Dieu, la spiritualité, si je peux dire, est caractérisée par un amour passionné pour Dieu, la recherche et l'obéissance continuelle de la volonté de Dieu dans les Écritures, une dépendance complète envers Dieu, une vie remplie de l'Esprit, continuellement transformée à la ressemblance de Jésus-Christ en foi, en pensée, en attitude et en action. Elle est vécue, cette spiritualité-là est vécue individuellement et collectivement en relation avec l'Église locale et le corps de Christ, et démontrée extérieurement par un amour profond et sincère pour le prochain et la participation active dans la mission de faire de toutes les nations des disciples, qui a pour résultat la louange et la gloire de Dieu. C'est beaucoup, hein? Là, j'ai dit la spiritualité selon Alex. Mais ça détaille, puis on va voir aller en profondeur dans ces choses-là. Là, je donne juste un aperçu. Mais vous voyez que c'est différent de juste la spiritualité en général. C'est fondé sur Jésus-Christ, une nouvelle naissance, sur les Écritures, chercher à aimer Dieu, puis ça se montre extérieurement. Il y a des choses qui se caractérisent, mais plus précisément, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut apprendre de ça, dans le fond, de la spiritualité, de nos désirs comme enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut chercher à approfondir notre intimité avec Dieu. Comme je le disais au début, on a tous besoin de grandir dans notre intimité avec Dieu. Ça fait 30 ans et plus, j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, où il m'a accepté, si je peux dire. Lorsqu'il s'est révélé dans mon cœur, j'ai saisi sa grâce, j'avais 5 ans. Puis je crois que c'est à ce moment-là que Dieu m'a sauvé. J'ai-tu tout compris le premier jour? Non. C'est sûr, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris quelque chose. J'avais des péchés. Jésus-Christ était mort à la croix pour mes péchés. Puis j'ai mis ma foi en lui pour avoir le pardon. Après ça, j'ai grandi puis j'ai appris bien des choses, hein, sur ce que ça veut dire qui est Jésus, etc. Puis la divinité de Christ. Puis bon, on ajoute à ça après. Mais la base de l'Évangile, l'œuvre accomplie pour Christ, je l'ai reçue, j'avais 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36. J'ai besoin de grandir encore dans mon, ma relation avec le Seigneur. J'ai besoin d'approfondir mon intimité avec Dieu. Et peu importe le temps que ça fait qu'on est chrétien, on doit chercher à justement cultiver un cœur qui cherche à vivre pour la gloire de Dieu. Et pour ça, on a besoin d'humilité. Je ne connais pas tout. J'ai besoin d'apprendre encore. J'ai besoin de venir au Seigneur pour dire, « Seigneur, montre-moi comment je peux être un enfant docile, accomplir ta volonté. » Et donc, là, les gens arrivent. Je vais terminer. On veut vivre une spiritualité aussi, deuxièmement, qui cherche à toucher les gens autour de nous avec la vérité de l'Évangile. L'homme a été créé pour vivre en relation avec Dieu. Dieu s'est révélé à nous en Jésus-Christ pour qu'on puisse vivre une relation intime avec lui. Et ce que le Seigneur désire, c'est qu'on soit des témoins de la bonne nouvelle, pour que les gens puissent vivre une vraie spiritualité en croyant en le seul vrai Dieu qui est là et qui a tout accompli pour nous, pour qu'on puisse être en relation avec lui. Alors, on a cette responsabilité pour suivre le mouvement évangélique et proclamer l'Évangile. On va se courber dans un mot de prière. On va aller dans l'adoration ensuite. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ces richesses, Seigneur, qu'on apprend dans l'histoire de l'Église et comment les hommes ont cherché à être attachés à l'autorité de ta parole, Seigneur. Et merci de ce cadeau qu'on a aujourd'hui, de ce précieux cadeau qu'on a d'avoir ta parole dans nos mains où on peut l'étudier, on peut être instruit par elle. Et Seigneur, aide-nous de jour en jour à chercher l'instruction dans ta parole pour qu'on puisse vivre dans ta volonté et vivre pour ta gloire. Seigneur, on a besoin de toi pour ça. On a besoin de venir à toi. On a besoin de dépendre entièrement de toi pour vivre. Parce que sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, aide-nous en nous donnant une soif de toi qui nous pousse à aller vers toi et à être nourris par toi pour qu'on puisse te glorifier en toutes choses. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.